Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, Montaillou, village occitan de 1294 à 1324 de l'historien Emmanuel Leroy-Ladurie. Livre publié en 1975, l'auteur s'appuie sur les registres d'inquisition de Jacques Fournier, évêque de Pamiers de 1318 à 1325, afin de retracer la vie des habitants de Montaillou, un petit village situé en Haute-Ariège. Des registres traduits en français par Jean Duvernoy en 1966 pour reconstituer la vie d'un petit village du Languedoc à l'époque du catharisme. Sans doute l'un des historiens contemporains les plus féconds, Emmanuel Leroy-Ladurie doit beaucoup à son mentor Fernand Braudel, grand historien de l'école des Annales. Au début des années 1970, Leroy-Ladurie participe à la Nouvelle Histoire. Il est un pionnier de l'analyse micro-historique. Le livre retrace entre autres les interrogatoires et la vie de Béatrice de Placinol, châtelaine de Montaillou. L'auteur y consacre 2 ans de travail à ce village perdu des Pyrénées ariégeoises. Il devient ainsi un spécialiste de l'anthropologie historique qui permet de saisir les hommes du passé dans leur environnement. L'ouvrage bénéficie alors d'un succès totalement inattendu. Il sera vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, faisant connaître son auteur auprès du grand public. Emmanuel Leroy-Ladurie est né le 19 juillet 1929 au Moutier-en-Cinglé dans le Calvados, en Normandie. La famille Leroy-Ladurie est une vieille famille normande de la région de Domfront, installée peu avant la Révolution française à Verneuil. Son grand-père, le commandant Barthélemy Emmanuel Leroy-Ladurie, est un officier de carrière destitué à 43 ans lors d'un conseil de guerre à Nantes, le 26 septembre 1902 pour avoir refusé de participer le 15 août 1902 à la fermeture des écoles des congrégations catholiques ouvertes avant 1901 à Douarnenez sous le gouvernement d'Émile Combes. Il fut réintégré avec son grade sans avancement au début de la Première Guerre mondiale. Barthélemy Emmanuel et Jeanne Leroy-Ladurie ont eu 5 enfants, dont Jacques, le père d'Emmanuel. Jacques, catholique social, a été un des fondateurs du syndicalisme agricole, ministre du ravitaillement sous le régime de Vichy en 1942, puis ensuite résistant et maquisard. Emmanuel Leroy-Ladurie étudie au collège Saint-Joseph de Caen, au lycée Henri IV à Paris et au lycée Lacanal à Sceaux. Élève de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, promotion 1949, agrégé d'histoire en 1953, il est délégué au sein de l'Union nationale des étudiants de France, où il s'oppose à plusieurs reprises de manière très vive à Jean-Marie Le Pen, représentant de la Corpo de droit de Paris. Aux côtés de François Furet, il collabore à Clarté, journal des étudiants communistes, qui mobilise des intellectuels contre le colonialisme et la guerre de Corée. Il est d'abord nommé professeur au lycée de garçons de Montpellier, lycée Joffre, de 1955 à 1957. Cette période est cruciale pour le reste de sa carrière, car c'est alors qu'il se lance dans la recherche. Il se marie en juillet 1955 avec Madeleine Pupponi, 1931-2024, médecin, fille du professeur de mathématiques et militant communiste d'origine corse, Henri Pupponi, 1904-1980. Elle le soutient tout au long de sa carrière, en l'accompagnant, entre autres, dans ses recherches sur l'avancée ou le recul des glaciers, marqueur de l'histoire du climat, et ils ont eu 2 enfants. De 1958 à 1960, Emmanuel Leroy-Ladurie est attaché de recherche au Centre national de la recherche scientifique, le CNRS. De 1960 à 1963, il est assistant à la faculté de lettres de Montpellier, puis maître assistant à l'école pratique des hautes études. De 1965 à 1975, puis à l'école des hautes études en sciences sociales. Enfin, de 1973 à 1999, il occupe la chaire d'histoire de la civilisation moderne au Collège de France. Emmanuel Leroy-Ladurie adhère au Parti communiste français en 1949, au sein duquel il milite. Mais il rompt en 1956, comme sa consœur Annie Kriegel et ses collègues François Furet, Alain Besançon, après l'invasion de la Hongrie par l'Union soviétique en 1956. Il rejoint par la suite le Parti socialiste unifié. Il subit un attentat de l'OAS à son domicile en raison de ses prises de position en faveur de l'indépendance de l'Algérie. Il a plus tard analysé et renié son engagement au sein du mouvement communiste dans Paris-Montpellier, PC-PSU, en 1982, les grands procès politiques ou la pédagogie infernale en 2002 et ouverture société-pouvoir de l'édit de Nantes à la chute du communisme en 2004. En 1966, il soutient sa thèse de doctorat S-Lettres, Les paysans du Languedoc. En 1975, il publie un livre d'histoire totale à partir du registre d'inquisition de Jacques Fournier, Montaillou, village occitan de 1294 à 1324, qui rencontre un grand succès public. Il se tient à distance des événements de mai 68, qui provoquent chez lui un dégoût profond. Il se tourne vers la droite libérale et anticommuniste à partir des années 1970. En février 1978, il fait partie des membres fondateurs du Comité des intellectuels pour l'Europe des libertés. Il est administrateur général de la Bibliothèque nationale de 1987 à 1994, préparant la création de la nouvelle entité avec le journaliste Dominique Jamais, président de l'établissement public de la Bibliothèque de France, et qui donna, en fusionnant, la BNF. Il meurt le 22 novembre 2023, à l'âge de 94 ans, dans le 14e arrondissement de Paris. Il est inhumé au cimetière de Sceaux, en Haute-Seine. Toute étude historique doit ou devrait commencer par une critique des sources. Notre livre, brièvement, ne manquera point à cette règle. Quelques mots d'abord sont indispensables pour présenter l'auteur, Jacques Fournier. L'auteur, ou du moins le personnage responsable de nos sources documentaires. Fournier naquit, semble-t-il, pendant la décennie 1280, sans plus de précision, à Saverdun, dans le nord du comté de Foix, dans l'Ariège actuel. Était-il fils de paysan ou de boulanger ou de meunier ? Le métier de ses biographes attribueront de la sorte à son père n'est peut-être que le fruit de leur imagination, mis en branle par le nom de famille Fournier. Une certitude pourtant, notre homme n'est pas fils de prince. Il est d'assez humble origine, au point que devenu pape, mais conscient de la médiocrité de son lignage, il refusera, dit-on, de donner sa nièce en mariage à un brillant aristocrate qu'il la voulait comme épouse. « Cette selle, dira-t-il en occitan familier, n'est pas digne de ce cheval. » La famille connaît pourtant, avant même Jacques Fournier, quelques épisodes marqués d'ascension sociale. L'un des oncles, Arnaud Novel, est abbé du monastère cistercien de Fontfroide. Encouragé par ce modèle, le jeune Fournier devient, lui aussi, moine cistercien. Il monte pendant quelque temps vers le nord. On le retrouve étudiant, puis docteur de l'Université de Paris. En 1311, il recueille la succession de son parent. Il est choisi comme abbé de Fontfroide. En 1317, connu déjà pour son érudition et sa rigueur, il est fait évêque de Pamiers. Il se signale, dans ce nouveau rôle, par ses poursuites inquisitoriales contre les hérétiques et déviants divers. Il entretient, dans sa ville épiscopale, des relations correctes avec les agents du comte de Foix et du roi de France. Il est jusqu'à ce point de sa vie pro-français parmi les Occitans. En 1326, le pape Jean XXII lui envoie ses félicitations pour les efforts couronnés de succès qu'il a déployés en zone apaméenne, dans la chasse aux hérétiques. Ils sont assortis d'un lot d'indulgences. L'action de Fournier, en son diocèse, ne s'est pas bornée aux persécutions contre les tendances hétérodoxes. Il a su également alourdir le poids des dîmes agricoles. Il a imposé celles-ci sur la production des fromages, des raves et des navets, qui jusqu'alors en étaient dispensés. Mais d'autres destins attendaient notre homme. En 1326, il est nommé évêque de Mirepoix, à l'est de Pamiers. Un biographe pourra se demander s'il ne s'agit pas là d'une disgrâce. Jacques Fournier s'est en effet rendu assez odieux dans son précédent diocèse, à cause de ses poursuites obsessives, maniaques et compétentes contre les suspects de tout poil. Mais Mirepoix compte davantage de paroisses que Pamiers. Plutôt que d'une disgrâce, il s'agit, semble-t-il, d'une promotion relativement dorée. Elle est suivie de quelques autres, éblouissantes. En 1327, Jacques Fournier devient cardinal. En 1334, il est élu pape d'Avignon sous le nom de Benoît XII. « Vous avez élu un âne », aura-t-il dit, avec son effacement habituel aux grands électeurs. Pourtant, ce modeste sous la tiare monte vite ses capacités, qui ne sont pas minces. Il réagit contre le népotisme. Moine ascétique, il tente de moraliser les abbayes. Intellectuel maladroit et rude, il réussit peu à peu en politique étrangère. Mais sur le terrain du dogme, il se sent à l'aise. Il redresse les fantaisies théologiques de son prédécesseur, Jean XXII, relatives à la vision béatifique après la mort. Au sujet de la Vierge, il se montre maculiste, autrement dit hostile à la théorie, qui triomphera plus tard, de l'Immaculée Conception de Marie. Ses interventions variées en matière de dogme couronnent une longue carrière intellectuelle. Au long de son existence, il a polémiqué avec force et non sans conformisme contre les penseurs les plus divers, dès lors qu'il lui paraissait s'écarter de l'orthodoxie romaine, contre Joachim de Fiore, contre Maître Eckhart, contre Occam. Bâtisseur, Jacques Fournier inaugure dans la capitale du comtat venaissin la construction du palais des papes. Il y invite pour la confection des fresques le peintre Simone Martini. Mais revenons vers des temps plus anciens. Dans la vie du futur Benoît XII, c'est la période apaménienne qui nous intéresse. Plus précisément, c'est l'activité de Jacques Fournier en tant qu'animateur diocésain d'un formidable tribunal d'inquisition. L'existence même de ce tribunal, sur place, entre 1318 et 1326, n'est nullement un fait qui va de soi. Certes, le comté de Foix, dans la partie méridionale duquel se déroule l'action de ce livre, avait été pendant plus de 100 ans la terre promise de l'erreur. Les hérétiques albigeois y grouillaient dès le XIIIe siècle. L'Inquisition y avait déjà sévi vers 1240-1250 après la chute retentissante de Montségur, dernier bastion des cathares en 1244. Les inquisiteurs s'étaient manifestés de nouveau en pays fuxéen vers 1265, puis en 1272-1273. Dans la plaine de Pamiers, la répression avait alors fouillé tous les recoins, vérifié toutes les croyances et puni toutes les défections. Plus tard, l'hérésie persiste à pulluler çà et là. En 1295, le pape Boniface VIII crée le diocèse de Pamiers, qui inclut le haut et le bas comté de Foix, le sud et le nord. Cette création administrative vise à permettre un contrôle plus commode de la déviance. Après une relative détente, qui durait depuis un quart de siècle, deux nouvelles offensives inquisitoriales se manifestent donc en 1298-1300 et en 1308-1309. En 1308, Geoffroy d'Alblis, inquisiteur de Carcassonne, met en état d'arrestation, au village de Montaillou, le peuplement tout entier, à l'exception des enfants. Ces poussées anti-hérétiques sont le fait du tribunal dominicain de Carcassonne, lequel est étranger, en tant que tel, au nouveau diocèse de Pamiers, comme au traditionnel comté de Foix. Les évêques apaméens, eux, malgré la mission qui leur est en principe impartie, persistent pendant longtemps à se tenir tranquilles. Ils ne pipent mot contre l'hérésie de leur ouaille. Le prélat Pelfort de Rabastin, 1312-1317, est trop occupé à se chamailler avec ses chanoines. Il n'a pas le temps de veiller à l'orthodoxie des pensées dans sa circonscription. Avec Jacques Fournier, son successeur, à partir de 1317, les choses vont changer. Le nouvel évêque met à profit une décision du Concile de Vienne en 1312. Elle stipule que dorénavant, au tribunal de l'Inquisition, les pouvoirs de l'évêque du lieu viendront se conjoindre en vue d'une profitable collaboration avec ceux du maître d'œuvre dominicain qui, jusqu'alors, était seul à mener le jeu répressif. Jacques Fournier peut donc, en 1318, constituer son propre office d'Inquisition. Il le dirigera en association étroite avec frère Gaillard de Pomies, lui-même délégué par Jean de Bonne, responsable de l'Inquisition de Carcassonne. Pomies et Bonne sont tous deux dominicains. Le nouveau tribunal apaméen s'avère très actif pendant toute la durée du pouvoir local de son fondateur. Quand Jacques Fournier sera nommé en 1326 au siège épiscopal de Mirepoix, l'office de Pamiers ne disparaîtra pas pour autant. Mais en vertu de la maxime « pas de zèle », implicitement préconisée par les paresseux continuateurs de notre évêque, l'institution répressive tombera en quenouille sur le plan local. Elle laissera en paix dorénavant les populations du comté de Foix. Tant mieux pour elle. C'est pendant l'épiscopat du seul Fournier que le tribunal produit pour nous les documentations les plus tangibles. Dans quelles conditions, sous quelle direction, s'opèrent ces agissements vétilleux? À la tête de l'office se tient bien sûr Jacques Fournier lui-même, inaccessible aux supplications comme aux pourboires, habile à faire apparaître la vérité, à faire jaillir les agnelles, comme disent ses victimes, capable de distinguer en quelques minutes un hérétique d'un catholique correct. Vrai démon inquisitorial, affirment les prévenus dont ils sont de l'écœur. Sorte de maigret obsessif et convulsif. Il procède et il réussit, essentiellement grâce à l'habileté tenace et démoniaque qu'il déploie dans ses interrogatoires. Il n'a recours qu'assez rarement aux tortures. Maniaque du détail, il assiste en personne à toutes les séances de son propre tribunal, ou peu s'en faut. Il veut tout faire, ou du moins tout diriger par lui-même. Il refuse de déléguer les responsabilités à ses sous-ordres, à ses scribes ou à ses notaires, comme le font à de nombreuses reprises les autres inquisiteurs trop négligents. Tout le registre d'inquisition de Pamiers portera donc la marque ou la griffe de son intervention permanente, d'où, entre autres raisons, l'extraordinaire qualité du document. Les paysans du Languedoc est la thèse d'Emmanuel Leroy-Ladurie. Le livre décrit l'évolution d'une société rurale depuis la Renaissance jusqu'au XVIIe siècle. En Cévennes, l'opposition ville-campagne constitue souvent, pour la réforme, un obstacle décisif et durable. Ainsi, à Béziers, à Montpellier en 1560 ou encore en 1590-1600. Pourtant, cette opposition n'est pas toujours insurmontable. Elle ne représente qu'un premier moment dans la pénétration des idées. Et dans certaines régions, ce premier stade est finalement franchi. Alors, les huguenots des petites villes, les artisans calvinistes, réussissent la percée en direction du milieu paysan. Et ils font basculer la masse rurale dans le camp réformé. C'est le cas des Cévennes, cas si extrême que Théodore de Bèze lui-même s'en émerveille quand il relate la prédication cévenole sous le règne d'Henri II. « Ce fut en ce temps, écrit-il, que ceux des montagnes des Cévennes, un pays âpre et dur, s'il y en a un en France et qui pourront sembler des moins capables à recevoir l'Évangile par la rudesse de l'esprit des habitants, reçurent néanmoins, avec une merveilleuse ardeur, la vérité. Au point que, quasi tout le commun peuple adhéra au calvinisme. En fait, ce commun peuple des Cévennes, artisans et paysans réunis, manifeste une telle vigueur pour abattre les croix et brûler les idoles qu'en 1561, Calvin lui-même doit rappeler à l'ordre ces huguenots montagnards trop révolutionnaires à son gré. Que s'est-il passé ? Comment expliquer la création, dès 1530-1560, de ce bastion cévenol, indéracinable, où le calvinisme a plongé en France ses plus fortes racines paysannes ? Pourquoi les vallées des Gardons sont-elles devenues, dès 1560, autant de rues des pasteurs ? Impossible d'invoquer, dans leur cas, l'ancienneté d'une tradition hérétique, sorte de levain des hérésies nouvelles. Ni le catharisme, ni le valdéisme n'ont joué au Moyen-Âge un rôle important sur les rives des torrents cévenols. Plus que le poids des morts, importe la situation des vivants. La conversion des Cévennes est d'abord une adhésion d'artisans, plus influents et plus nombreux qu'ailleurs. Et la structure sociale ici joue en faveur d'une osmose avec le monde paysan. Les gens de métier, spécialement les artisans du cuir, plantent jusqu'en pleine campagne les principes de la réforme huguenote. Qu'on se reporte aux listes de réfugiés à Genève dans les années 1549-1560, elles comportent une forte proportion d'hommes des métiers. Et dans ce groupe artisanal, les cordonniers viennent en tête pour l'ensemble du premier refuge français. Chez les exilés venus de Nîmes, Annonay, Aubenas, dans ces villes situées au débouché des vallées cévenoles, les savetiers aussi forment la plus nombreuse des corporations huguenotes. Mais remontons maintenant les vallées, pénétrons au cœur vivant de la Cévenne calviniste, dans ces régions d'Alès et du Vigan, qui seront plus tard l'une des forteresses camisardes. Là, les métiers du cuir, et spécialement les cordonniers, n'ont pas seulement la primauté numérique. Il représente en 1549-1560 la majorité absolue des exilés à Genève. Sur 47 réfugiés cévenols dont on connaît la profession, on note, à côté des tisserands, chaussetiers, laboureurs, médecins, libraires et boulangers, 24 personnes de profession du cuir, 22 cordonniers, soit 50% du total. Phénomène unique et spécial à ce triangle des hautes terres calvinistes compris entre Mende, Alès et Ganges, on n'en trouve l'équivalent nulle part. En Cévennes, artisans et cordonniers, auxiliaires irremplaçables des ministres, contribuent à semer la réforme dans les villages perdus. Et leur action est la plus durable, la plus efficace qui soit. Elle s'appuie d'abord sur une structure socio-professionnelle d'avant-garde qui confère toute son importance dans les Cévennes à l'artisanat rural ou semi-rural. C'était la chronique littéraire de Gilles Labourois. À bientôt.